De nos jours, quand une nation doit faire face à une crise, le pouvoir politique en place, qu'il se compose de ministres d'État ou du despote de service, consulte avec lui-même et décide des mesures à prendre. Les résultats ne sont jamais brillants parce que l'homme livré à sa propre jugeote est tout à fait incapable de résoudre les vrais problèmes qui se posent à lui. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda, quand survenait un malheur, les chefs se réunissaient dans le temple de l'Éternel et invoquaient son nom. Ils criaient leur détresse et imploraient sa miséricorde. Et chaque fois qu'ils se repentaient de leurs mauvaises actions, Dieu intervenait en leur faveur. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on a évolué. Dans la réalité, ceux qui nous dirigent sont bien trop orgueilleux pour reconnaître qu'ils n'ont pas de solution et pour se tourner vers Dieu. Je continue à lire dans le premier chapitre du livre du prophète Joël. « Publiez donc un jeûne et convoquez une réunion cultuelle. Rassemblez les responsables du peuple avec tous les habitants du pays au temple de l'Éternel, de votre Dieu. Suppliez l'Éternel. » Verset 14. Le texte dit littéralement « Sanctifiez un jeûne », c'est-à-dire consacrer solennellement un jour où tout le peuple sera appelé à se priver de toute nourriture et à invoquer la miséricorde divine. La loi de Moïse n'ordonnait pas de jeûne formel, mais c'était malgré tout une coutume courante aussi bien en terre d'Israël que chez les païens, notamment quand ils étaient en proie à de grandes détresses. Ici, tous les responsables du peuple, qu'ils soient dans la capitale ou dans les campagnes, sont appelés à se réunir au temple. Cette sainte convocation montre bien que le culte de l'Éternel était respecté et les prêtres jouissaient d'une grande autorité. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, à cette époque, le roi était Joas, mais comme il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans, c'est le grand prêtre Yehosheba, son protecteur, qui dirigeait le pays. La situation est donc la suivante. Une invasion de sauterelles vient de déferler sur le royaume de Juda. Le prophète a décrit les énormes ravages agricoles causés par les insectes. Toutes les campagnes sont dévastées, les récoltes sont détruites, les arbres sont mis à nu et terriblement endommagés. Joël a passé en revue plusieurs catégories du peuple qui se lamentent, les buveurs de vin, ceux qui vivent de l'agriculture, mais aussi les prêtres qui sont privés des offrandes du sol qui doivent accompagner certains sacrifices. Puis Joël appelle les responsables de tout le peuple à une réunion de crise dans le temple. Elle est présidée par les prêtres et le but est de se lamenter et de crier sa douleur à l'Éternel en implorant sa miséricorde. Je continue le texte. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Verset 15. Joël fait ici un jeu de mots entre « ravage » et « puissant » qui se ressemble beaucoup en hébreu. De plus, il remonte à la véritable origine de ce malheur. C'est un ravage du Tout-Puissant. C'est ici la première mention du jour de l'Éternel, une expression solennelle caractéristique du vocabulaire prophétique et qui charpente l'ensemble du livre de Joël. Le jour de l'Éternel désigne des interventions décisives de Dieu dans l'histoire de l'humanité par lesquelles il exerce ses jugements contre son peuple ou contre les nations païennes. C'est toujours un temps de grande détresse comme la fin d'une époque de l'histoire ou la fin de l'existence d'un peuple ou d'un empire ou le sac d'une capitale. Par exemple, après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, le psalmiste s'écrit « Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements !» Ce « souviens-toi des enfants d'Édom » sous-entend pour les punir, surtout que c'était au moins la deuxième fois que cette nation participait au sac de Jérusalem. La première fois, les Édomites avaient prêté main forte aux Syriens qui avaient attaqué la ville sainte vers la fin du règne du roi Joas. Dans la pensée du psalmiste, la journée de Jérusalem est un jour de l'Éternel dirigé contre la ville sainte et contre Juda, le royaume qu'elle représente. Pareillement, à l'occasion du jugement de Babylone, le prophète Ésaïe écrit « Poussez donc des cris de détresse, car il se rapproche à grands pas le jour de l'Éternel, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. » Ces paroles sont presque les mêmes que celles de Joël à l'occasion de la plaie des sauterelles. Dans son sens absolu, le jour de l'Éternel désigne la dernière crise qui mettra un point final au temps des nations, cette période où nous sommes actuellement et que Jésus a définie quand il a dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ». Ou en d'autres mots, Jérusalem sera occupée par les païens jusqu'à ce que le temps de leur domination soit révolu. Aujourd'hui, la ville sainte n'est pas entièrement sous le contrôle d'Israël puisque les Juifs doivent partager Jérusalem avec d'autres et ne pourraient pas reconstruire le temple même s'ils le voulaient. La crise finale du jour de l'Éternel verra la fin de l'humanité et de son évolution telle que nous la connaissons actuellement. En attendant ce jour grand et terrible, dans le cours de l'histoire, Dieu juge successivement ceux qui s'élèvent contre lui. Ces châtiments partiels, incomplets et provisoires sont des préludes à l'acte final de Dieu par lequel tout ce qui s'est monté contre lui sera laminé et ceux qui ont été opprimés seront relevés. Quand Joël s'exclame « Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant », les sauterelles n'avaient pas encore envahi le pays, mais il sévissait déjà une sécheresse terrible qui était le signe précurseur de leur arrivée. En tant que prophète, Joël les voyait venir à l'horizon. La sécheresse avait pour cause le vent chaud et même brûlant venu du désert, et c'est ce même vent qui allait apporter les hordes d'insectes voraces. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'était passé quand, sur l'ordre de l'Éternel, Moïse avait commandé aux sauterelles d'envahir le pays d'Égypte. Je lis ce passage qui montre également l'ampleur des dégâts causés par un tel fléau. Moïse leva son bâton sur l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays tout ce jour-là et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent avait amené les sauterelles. Elles s'abattirent sur toute l'Égypte et se posèrent sur tout le territoire, en si grand nombre que jamais on n'avait vu et jamais on ne verra pareil fléau. Elles recouvrirent tout le pays. La terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toute la végétation, tous les fruits des arbres qui subsistaient après la grêle, de sorte qu'il ne resta aucun brin de verdure ni aux arbres ni dans les champs de toute l'Égypte. Soit dit en passant que dans les 10 plaies d'Égypte, celle des sauterelles est la 8e, c'est-à-dire qu'elle précède les ténèbres et la mort des premiers-nés égyptiens. Dans sa vision de prophète, Joël voit venir les sauterelles, mais en même temps, plus loin dans le temps, il voit le jugement final, grand et terrible, du jour de l'Éternel. Donc, ces paroles ont deux applications. Une qui est immédiate et qui est le jugement par les insectes, et une autre qui est lointaine et qui se situe à la fin de ce monde tel que nous le connaissons. La plaie des sauterelles que Joël voit venir est donc un prélude, une menace, un avant-goût de ce qui arrivera dans l'avenir. La catastrophe des sauterelles revêt une signification eschatologique parce qu'elle annonce la détresse bien plus grave de la fin des temps. Elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse. La vision de Joël télescope le temps. Elle l'éclipse, ce qui fait qu'il entrevoit d'un seul coup d'œil l'arrivée des sauterelles et le jour de l'Éternel grand et terrible de la fin du monde. Je sais bien que je me répète, surtout que j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion d'expliquer en quoi consiste la vision prophétique. Cette perspective du présent et de l'avenir télescopée est typique du ministère des prophètes de l'Éternel, mais elle est étrangère à la pensée cartésienne et donc à notre façon de voir les choses en Occident. Tous les prophètes de l'Ancien Testament mettent en relation un jugement particulier sévère avec la crise finale de la fin des temps. Ce phénomène prophétique apparaît aussi dans les passages du Nouveau Testament qui annoncent le retour de Jésus-Christ quand il reviendra sur terre pour instaurer son royaume 1000 ans. Je continue le texte. « Car ne nous a-t-on pas ôté la nourriture sous nos yeux ? Et du temple de notre Dieu, n'a-t-on pas retiré la joie et l'allégresse ?» Verset 16. Ici encore, Joël se transpose dans l'avenir après le passage des sauterelles et voit ses conséquences. C'est la troisième fois qu'il fait référence au temple en déplorant le fait que son fonctionnement va être handicapé et lésé parce qu'éventuellement les prêtres vont manquer de vin, d'huile et de farine. Ce nouveau rappel sous forme de lamentation montre que pour Joël, les prêtres et probablement les responsables du peuple, la catastrophe la plus grave n'est pas la destruction de toute la végétation par les sauterelles, mais l'absence des produits agricoles utilisés avec les sacrifices. Je continue. Les semences sont séchées sous les mottes, les greniers sont désolés, les granges sont en ruine car le blé est épuisé. Verset 17. Ce verset a la particularité de contenir quatre mots hébreux qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Deux fléaux frappent le royaume de Juda, la sécheresse et les sauterelles. Ce phénomène est relativement logique car lorsque les pluies du printemps font défaut, les œufs pondus par les sauterelles n'ont pas péri noyés dans l'eau, ce qui fait que ces insectes voient leur nombre atteindre des sommets astronomiques. Je continue. Écoutez le bétail comme il gémit. Les troupeaux de bovins ne savent où aller car ils ne trouvent plus de pâturage et les troupeaux de moutons et de chèvres sont atteints eux aussi. Verset 18. Dans une société de type agricole, les plantations servent à nourrir aussi bien les hommes que les animaux. Si pour une raison ou pour une autre, les récoltes sont trop faibles ou inexistantes, les éleveurs sont obligés d'abattre leurs troupeaux. Aujourd'hui, les nations riches ont la possibilité d'importer des aliments, mais dans bon nombre de pays du tiers-monde, la situation est semblable à celle qui existait en Israël. Les gens sont presque entièrement dépendants d'une seule activité, le plus souvent l'agriculture ou la pêche, ce qui rend leurs conditions de vie très précaires. Si dans le premier cas, on a une sécheresse prolongée, et si dans le second, il y a une pollution importante ou une forte baisse du niveau du lac ou que des bateaux usines viennent jusqu'au bord des côtes racler les fonds et tout rafler, le résultat est la disette pour les autochtones. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, on a souvent des conflits armés qui s'ajoutent au premier désastre. Pour la suite, voyez les infos. Je finis le premier chapitre du livre de Joël. « C'est vers toi, Éternel, que je pousse des cris. Oui, car le feu dévore les pâturages de la steppe, et la flamme consume tous les arbres des champs, et même les bêtes sauvages vers toi se tournent, car les cours d'eau se sont taris, le feu dévore les pâturages de la steppe. » Versets 19 et 20. Les pâturages de la steppe ou du désert sont les endroits non labourables qui servent à la nourriture des troupeaux et dont la végétation provient des pluies, de quelques sources d'eau et des ruisseaux qui se créent lors de fortes averses. Le feu fait souvent partie des jugements de Dieu. Ici, c'est une image du vent brûlant qui vient du désert et qui dessèche tout. Solidaire de son peuple, le prophète invoque lui aussi l'Éternel. Devant cette affreuse calamité, la seule chose à faire est de crier à Dieu et d'espérer que dans sa compassion, il soulagera la misère du peuple. Nous arrivons au chapitre 2 qui continue le thème du jour de l'Éternel. Abdias, qui est le premier des prophètes à écrire ses oracles, est aussi le premier à introduire ce jour solennel et menaçant. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que l'Éternel a conclu une alliance éternelle avec David. Ce grand roi est mort il y a de cela à peine un siècle et demi. Or Dieu lui avait promis qu'il aurait un descendant sur son trône à tout jamais. Et puis voilà qu'il est question du jour de l'Éternel. Les croyants de l'Ancien Testament ignoraient qu'avant l'accomplissement de la promesse de Dieu à David, le peuple élu connaîtrait bien des malheurs. Si le jour de l'Éternel commence par des jugements, ensuite vient le règne du descendant de David, Jésus-Christ, le Messie, qu'un prophète appelle le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. Dans le second chapitre, Joël nous présente deux tableaux. D'une part, l'invasion de sauterelles dont il a été le témoin, et d'autre part, une attaque ennemie contre le peuple élu à la fin de la première partie du jour de l'Éternel grand et terrible. Je commence à lire le chapitre 2. « Sonnez du cor dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma sainte montagne, tremblez, vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel, il est tout proche. » Verset 1. Le cor était fabriqué avec une corne de bélier. On utilisait aussi des trompettes d'argent. Ces instruments jouaient le même rôle que les cloches d'une église. Ils invitaient le peuple aux convocations solennelles et sonnaient l'alarme en cas d'attaque. Ici, le son du cor somme les habitants des campagnes d'aller se réfugier au plus vite avec leurs possessions dans les villes fortifiées. Sonner du cor dans les murs de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. La ville est construite sur un plateau au faîte de la chaîne centrale qui constitue l'épine dorsale de la Palestine. Sion, qui s'élève à presque 850 mètres au-dessus de la mer, est la plus haute colline de cette chaîne. À l'origine, Sion était le nom d'une forteresse bâtie sur la colline et occupée par des Cananéens. Le roi David s'en empara, l'appela « Cité de David » et y amena l'Arche de l'Alliance. Dès lors, Sion fut considérée comme sainte. Par contre, le temple a été construit par Salomon sur le mont Morija, la montagne sur laquelle Abraham offrit son fils en sacrifice. Sion et Morija sont deux collines distinctes, mais dans le prolongement l'une de l'autre. Éventuellement, le mont Sion vint aussi à désigner le temple et devint le titre de noblesse de la ville de Jérusalem, ce qui explique pourquoi Sion apparaît si souvent dans l'Ancien Testament. Ici, le but du prophète Joël est d'inspirer la terreur, ce qui ressort bien de ses paroles quand on ne considère que les verbes. « Sonnez du cor, donnez l'alarme, tremblez, car il arrive le jour de l'Éternel, il est tout proche. » En hébreu, le mot pour « arrive » est au temps parfait, ce qui veut dire que le jour de l'Éternel est là devant nous, et pourtant, il est seulement proche. En fait, c'est le jugement du jour de l'Éternel immédiat qui est là, c'est-à-dire les sauterelles qui sont déjà en vol en direction du royaume de Juda, tandis que le jour de l'Éternel, grand et terrible, de la fin des temps, est encore à venir. Le prophète entrevoit donc deux jugements, l'un actuel et l'autre pour plus tard. Le second et le dernier culminera non pas dans une invasion d'insectes, mais par des armées qui investiront la Palestine et encercleront Jérusalem avec l'intention de la conquérir. C'est à ce moment précis que, selon une prophétie, l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, posera ses pieds sur le mont des Oliviers près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. » Fin de citation. Là où Dieu pose ses pieds, la terre tremble. Cette arrivée glorieuse de l'Éternel sur le mont des Oliviers rappelle ce qui s'est passé sur le mont Sinaï quand il a donné la loi aux Israélites. Le mont des Oliviers est situé en face et à l'est de Jérusalem, ce qui interdit toute sortie dans cette direction. Mais quand Dieu interviendra, le mont s'ouvrira, il se fissurera pour créer un passage allant de Jérusalem à la plaine du Jourdain, ce qui permettra aux habitants de la ville de s'enfuir. Les deux moitiés de la montagne qui se séparent et reculent font penser aux eaux de la mer Rouge qui se retirèrent pour frayer un passage aux Hébreux qui s'enfuyaient devant l'armée du Pharaon. Quand Dieu reviendra, ce sera à l'endroit même d'où est partie sa gloire en 587 avant Jésus-Christ, juste avant que les Babyloniens ne pénètrent dans Jérusalem. C'est le prophète Ézéchiel qui nous le dit. Je lis le passage. « Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et se tint sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem. » Fin de citation. Après l'ascension de Jésus qui a eu lieu à partir du mont des Oliviers, deux anges sont apparus aux disciples et leur ont dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Fin de citation. Et cette fois-ci, il reviendra pour triompher de ses ennemis et régner en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs.